When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicants 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Nicolas Brevière qui est producteur au sein de Local Film. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Donc c'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast qui va être autour du cinéma bien sûr et de la production. Comment tu en es arrivé à Local Film et cette passion de la prod ?
Alors ça a commencé sans commencer en fait, c'est-à-dire que j'ai essayé pendant mes études à Sciences Po en fait, je faisais des petits courts-métrages en Super 8. Et je me suis toujours dit que c'était l'endroit où j'aimerais travailler, mais je ne savais pas du tout quelle fonction. Je ne connaissais personne dans la production, je ne savais pas comment on faisait, je ne savais, savais même pas qu'il y avait des études pour ça. Et donc, je suis parti un jour, on appelait ça à l'époque le volontariat du service national en entreprise. Donc en fait, c'était un VCNE. Et on m'a envoyé au Guatemala. Je ne savais même pas où c'était ce pays. Mais bon, bref, on m'a envoyé là-bas dans une entreprise. Et en fait, on m'a directement mis responsable de la production audiovisuelle en fait, des produits. Alors c'était des produits pharmaceutiques. Donc pas très
reluisant,
funky,
mais sexy.
Bon. Et en fait, je me suis dit, et donc du coup, j'ai découvert la production, mais un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la pro sans le savoir. En fait, donc j'étais là-dedans, et ensuite je voulais rester en fait. Je voulais pas rentrer en France parce que je savais pas du tout quoi faire comme métier. Je savais pas du tout où je voulais m'orienter. Et un autre hasard a fait que j'ai été ensuite au Mexique, où j'ai trouvé un poste en fait dans une université qui s'appelait Cinéma et Vidéo en fait, où je donnais des cours, mais j'avais jamais donné.
Là, t'avais une vingtaine là.
Oui, j'étais très jeune et je donnais des cours à des étudiants qui avaient pratiquement mon âge sur la publicité. Parce que bon, j'avais dans mon cursus, j'avais fait un peu de pub, mais j'y connaissais absolument rien. C'était vraiment du pipotage à la valeur. Oula, vraiment du grand standing de pipotage. Et on m'a dit, ah bah tiens, en fait, tous les ans, il y a la Foire internationale du livre, qui est quelque chose d'énorme, en fait, au Mexique. Et on a besoin de programmes vidéo. Il faudra que tu fasses ça avec les étudiants. Je dis, ah bon. Donc, on me charge de faire à peu près 2 heures de programme par jour. La feria, ça durait 12 jours. Donc, il fallait que je fasse 24 heures de programme en très peu de temps, en fait, en 3 mois. Donc, j'ai appris un peu là aussi en faisant. Alors, c'était des travaux d'étudiants, hein, en fait, ce qu'on faisait. Mais c'était, il fallait tourner, il fallait monter, il fallait voilà, le présenter après. Donc, j'ai fait ça. Et en rentrant en France, en fait, je me suis dit, bon, peut-être que la production, c'est quelque chose qui pourrait me convenir. Donc j'ai essayé de chercher, j'ai trouvé mais aucun boulot. En fait, j'ai envoyé des CV partout et en fait ça marchait pas. J'ai d'abord essayé dans les boîtes de pub, en fait ils voulaient pas de moi parce que bon, j'avais un parcours trop atypique en fait.
D'accord.
Et je pensais pas totalement aux boîtes de production de films, de cinéma. Je crois que j'ai pas envoyé de CV en fait parce que ça me semblait vraiment très lointain en fait, le cinéma.
Ok.
C'est plutôt l'audiovisuel en général, mais sans savoir en fait vraiment par rapport à l'image, par rapport à l'image, si c'était de la publicité, si c'était de la télévision, si c'était du cinéma, je ne savais pas du tout. Et puis un jour, j'ai trouvé un stage dans un syndicat de producteurs qui s'appelait l'AFPF, c'est l'Association française des producteurs de films, qui avait créé un centre de formation à la production de films, qui s'appelait le CEFPF. Et en fait, la FPF, à cette époque-là, le président, c'était Anatole Dauman. Anatole Dauman, oui. C'est un producteur mythique, en fait, qui a produit oui. Hiroshima, Mon Amour.
Et tout ça, Chris voilà. Marker et tout
Hiroshima,
ça.
Hiroshima, Mon Amour, L'Empire ouais. d'Essence, Paris, Texas. Et comme c'était un monsieur, alors, un peu âgé, mais déjà très, comment dire, assez autoritaire et pas facile d'accès, en fait, il s'était dit, on va lui mettre le stagiaire. Pour travailler avec lui, parce que lui, à cette époque, en fait, son grand combat, c'était contre la puissance des circuits dans les salles cinématographiques. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque du GIE, c'était le groupement d'intérêt économique qui était constitué par Pathé et Gaumont, et puis UGC, c'était l'autre circuit, préemptait 80% du marché, laissant très peu de place aux indépendants. Et lui, son grand combat, qu'il a mené et qu'il a en partie perdu, d'ailleurs, c'était en fait beaucoup de lobbying auprès de parlementaires pour faire passer une loi sur la concurrence pour diminuer en fait l'emprise des circuits sur l'exploitation des films en France. Donc j'ai beaucoup appris avec lui, mais pas tant en fait sur ce problème de l'exploitation qui m'en dépassait complètement, mais plutôt sur lui-même, en fait. Ça me permettait de l'observer et puis d'avoir de temps en temps des... Comment dire, de temps en temps, il me parlait de René, il me parlait de Nagisa Oshima, il me parlait de Wim Wenders, etc. Et j'étais très impressionné, parce que c'était un monsieur, mais très, très impressionnant.
C'était un des grands producteurs, quand même, de
c'était
l'époque.
C'était un des plus grands, en fait.
Avec Brandberger, c'est voilà. Tous les producteurs d'avant, quoi.
C'est tous les producteurs qu'on commençait après la guerre, en fait, qu'on produit des milliers de courts-métrages. Lui, il a produit des courts-métrages d'Alain René, il a produit des courts-métrages de Chris Marker, il a produit tout un tas, mais il a produit au moins...
La Jetée, pour les auditeurs, voilà. C'est La Jetée qui a inspiré L'Armée des Douze Singes avec voilà. Brad Pitt et Bruce Willis. Qui était, ce court-métrage, il a vachement marqué sur l'aéroport.
Ouais.
C'est défini dans la Nouvelle Vague ou c'est censé
pas
être
du
après
tout. Non,
non, c'est après. Hein.
C'est en fait, il y avait des cinéastes qui n'étaient pas du tout Nouvelle Vague. Et puis lui, il a pas tellement produit de films de la Nouvelle Vague. En fait, il en a produit, mais pas tant que ça. Pas Brandberger était plus, par exemple, lui ou Beauregard était plus en fait
tourné
proche de
la Nouvelle Vague,
de Godard, etc. Lui, il en a fait quelques-uns. Mais
donc tu as beaucoup appris auprès de lui finalement.
Bah, en fait, c'est-à-dire que pour moi c'était une énigme ce que c'était un producteur du cinéma. J'avais vraiment aucun
référentiel.
Non, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, j'ai appris le mauvais côté des choses, c'est-à-dire que j'ai appris le côté très intuitif, c'est-à-dire que en fait lui il se souciait assez peu de comment financer un film. En fait, ce qui était important. Alors, il l'a fait dans plusieurs œuvres, c'était de rapprocher, en fait, un auteur d'un livre, alors ça pouvait être Rob Grillet, etc., avec un réalisateur. Marguerite Duras, Alain René, par exemple, c'est lui qui les a fait rencontrer. Et c'est grâce à lui, en fait, que Hiroshima, Mon Amour est né. Et lui, en fait, il avait une manière un peu de pratiquer, alors qu'il n'avait pas un copec, hein, mais une forme de...
Marieur, un peu mariage.
Voilà, et puis aussi une forme de, pas de mécénat, mais en fait d'arriver à produire ces films-là.
Il était un peu à la Kermit, non, tu dirais? Il y a un petit cousinat, non, pas...
Non, je pense que c'était en fait une époque où les producteurs n'avaient ni chaîne de télé pour produire leurs films, ni des Sofica, ni Canal+, ni... Donc en fait, il fallait qu'ils trouvent comment produire leurs films, en fait. Donc,
d'accord.
Ils les produisaient essentiellement par le biais des distributeurs qui, à l'époque, mettaient aux environs entre 60 et 70% du financement d'un film.
Oui.
Aujourd'hui,
ça
représente que 5 ou 10%, quoi. C'est très peu.
Donc, ah oui, il y avait beaucoup plus de risques sur le distributeur à l'époque, en fait.
Bah, il y avait beaucoup plus de risques aussi sur le producteur, en fait.
Sur le
producteur. Voilà, mais bref. Il a donc en fait, je me suis intéressé en fait plus moins à la production que à ce que c'était un producteur en fait. C'est-à-dire que la production en tant que telle m'intéressait pas, mais lui m'intéressait beaucoup.
C'était un personnage un peu fascinant tel
oui,
que tu l'es.
Oui, et puis je me disais mais c'est bizarre en fait c'était pour moi c'était une espèce d'inconnu et qui était assez excitant. Et puis donc parallèlement, donc lui il était à la FPF et parallèlement il y avait ce centre de formation à la production de films qui avait été créé donc, par ces producteurs de ce syndicat. Et ce syndicat, en fait, ça regroupait vraiment l'ensemble, à l'époque, l'ensemble de des producteurs indépendants français, en fait. C'était vraiment un énorme syndicat de producteurs. Maintenant, c'est plus morcelé. Et il y avait un peu tout le monde, des plus anciens aux plus jeunes. Bah, quand je suis arrivé, c'est à l'époque où... il avait déjà commencé avant, mais c'est à l'époque où, par exemple, Alain Roca, qui a produit Un monde sans pitié, qui a produit La discrète, Les patriotes, etc., commençait à produire. Donc, en fait, ça rassemblait un éventail en fait, de producteurs très, très large. Et dans ce centre de formation, en fait, c'était une manière... pas dite, mais en même temps, je pense que c'était un peu l'idée, c'était de former des producteurs pour qu'à un moment donné, ils puissent adhérer à ce syndicat, en fait.
D'accord.
Donc, il s'agissait, en fait, dans ce centre de formation, de constituer des itinéraires pédagogiques, c'est-à-dire faire des formations sur comment produire un film, donc le scénario, la distribution, l'exploitation, le financement, et de faire appel à des intervenants pour faire une formation à des gens qui étaient la majorité des intermittents du spectacle.
Il y avait un côté un peu master de formation, tu vois.
C'était vraiment formation, mais c'était pour des intermittents du spectacle, en fait, et puis qui voulaient évoluer vers la production. Et puis moi, on m'avait chargé, j'avais été propulsé, en fait, à la tête de ce truc-là, vraiment, bon, sans vraiment le savoir et le vouloir, d'ailleurs. Et donc, je me suis mis à faire des itinéraires pédagogiques, à rencontrer des intervenants, à faire avec eux, en fait, toute la formation. Et puis, à un moment, au bout d'un an ou deux, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je ne monterais pas ma boîte? Parce qu'en fait, l'objectif de cette formation, c'était former à la production de films. Donc, en fait, former aussi à monter une structure de production. Donc, finalement, je me suis dit, tiens, bon, ça n'a pas l'air si compliqué
que
ça.
Combien d'années tu as fait chez eux, au centre?
J'ai fait un an, je crois, quelque chose comme ça.
Et donc là,
j'ai fait un an à l'FPF, mais c'était la même chose. Hein, un an avec un peu Anatole Dauman, et puis un an avec, dans le centre de formation. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, ça ne m'a pas l'air très dur. Sauf que, OK, enfin, théoriquement, je pouvais monter une société de production, mais pratiquement, en fait, déjà, il fallait un peu de capital. À l'époque, ce n'était pas beaucoup. Et puis, il fallait surtout des projets, quoi. Nos projets, en fait. Et c'est là, en fait, où complètement par hasard, c'est vraiment un hasard, en fait, je suis retombé sur quelqu'un que j'avais connu au moment où moi, j'étais à Sciences Po. Lui, il était dans une autre école. Et on se retrouve complètement par hasard. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je dis, bah, je ne sais pas, je vais peut-être monter une société de production. Et lui, il me dit, ah, bah, c'est super, en fait, moi, je suis à la FEMIS, là, il me reste encore un an, mais je n'ai pas le droit de faire de film pendant mon cursus à la FEMIS. J'ai juste un film par an, en fait, à faire. Mais, en fait, j'ai envie de faire d'autres films à côté. Donc, et ce garçon, c'était François Ozon. Donc, du coup, j'ai produit deux films, en fait, un court-métrage et un moyen-métrage. Le moyen-métrage s'appelait « Regarde la mer ». Et j'ai commencé comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait en faisant, en fait. C'est-à-dire que j'avais aucun plan de trésorerie, aucun business plan, aucune idée, en fait, de comment on faisait.
Tu voyais déjà son talent, parce que là, tu cites quand même
un
grand réalisateur.
Oui, bah, parce que c'était lui en premier, en fait. En même temps, je peux pas...
Il avait quoi, une trentaine, 25?
Non, il était assez jeune, il avait 23 ans, 24 ans, en fait.
Donc là, tu l'as accompagné sur ses cours moyens.
Alors, il a fait des cours à la FEMIS, et ensuite, il a fait deux ou trois autres cours avant de faire un long après.
Okay.
Et ça s'est enclenché comme ça, en fait. C'est-à-dire que lui connaissait un réalisateur, en fait, qui voulait devenir réalisateur, qui avait un projet de scénario, qui m'a dit, mais tiens, mais pourquoi tu ne le produirais pas? Il m'a dit, mais elle, je la connais bien, elle veut faire un film, pourquoi tu ne le ferais pas? Et en fait, ça s'est fait un peu une sorte de chaîne, en fait, où je produisais les films des amis, des amis dont je produisais les films. Donc ça s'est un peu enclenché, la machine s'est un peu enclenchée comme ça. Et avec toujours le souci, en fait, de pouvoir accompagner, parce que, par exemple, j'ai fait énormément de films, j'ai fait plus d'une centaine de films, Mais je n'ai pas fait 100 films de 100 réalisateurs différents. J'ai fait, y a des réalisateurs avec qui j'ai fait 7 ou 8 courts-métrages, en fait. Donc, finalement, j'ai fait énormément de films, mais, j'ai pas, avec assez peu de réalisateurs. Avec beaucoup, mais pas tant que ça, en fait.
D'accord.
Parce que si on multiplie, je ne sais pas, il y en a au moins 5 ou 6 avec qui j'ai fait au moins 6 ou 7 films. Donc, ça fait déjà plus d'une cinquantaine, en fait. Donc, voilà.
Quels sont, tu peux, alors à part François, tu peux citer d'autres metteurs en scène?
Il y avait j'ai fait beaucoup de films avec un garçon qui s'appelle Pascal Alec Vincent. J'ai fait,
qui avait fait Bébé Requin, non?
Qui avait fait Bébé Requin, qui était à Cannes, tout à fait.
C'était toi qui avais produit Bébé Requin?
C'est moi qui avais produit.
Ah, bravo,
ouais. J'ai fait 5-6 films avec lui et son long métrage. Ensuite, avec une comédienne qui avait joué dans un film de François Ozon. Que je connaissais bien, qui s'appelle Lucia Sanchez, qui est une actrice en fait, et avec qui j'ai fait au moins 5-6 films aussi. Et puis j'ai rencontré, après j'ai eu deux rencontres plus décisives, une avec Blandine Lenoir, donc, que je connaissais pas du tout, et que j'ai rencontré en fait, elle présentait un film, un court-métrage en fait qu'elle avait réalisé, mais vraiment je la connaissais pas. Et je trouvais le cours super. Et je lui ai dit, mais attends, mais ton film, ça va être un carton, mais tellement il est super, mais ça va être cartonné, etc. Il a fait 2 festivals en tout. Et donc, elle est revenue me voir. Elle m'a dit, ben voilà, en fait, puisque tu as une vision quand même assez juste des choses, ben voilà, je te propose de faire mon prochain film. Et donc, j'ai entamé une collaboration avec elle, pareil, sur peut-être 7 ou 8 ou 9, je ne sais plus, courts-métrages. Dont le dernier, en fait, c'était un moyen-métrage qui s'appelait Monsieur l'Abbé, qui avait été nommé au César, qui a eu une multitude de prix, voilà.
C'est incroyable de faire autant de cours à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est un genre en soi, le court-métrage aussi.
C'est un genre, mais en fait, moi, je ne voulais pas me spécialiser là-dedans, mais en fait...
Ils avaient besoin de tourner, quoi, les réals avaient besoin de tourner.
C'est-à-dire que moi, j'avais toujours considéré que le court-métrage, c'était... c'était pas forcément... si, finalement... un tremplin pour le long, mais en fait c'était de s'exercer en fait, et qu'il fallait pas attendre 3 ans le financement d'un court métrage, d'avoir le CNC, d'avoir une télé, etc., mais qu'il fallait constamment travailler en fait, et que donc du coup il réalisait un ou deux courts métrages par an, ou deux tous les 3 ans, enfin bon bref. Donc j'ai beaucoup produit de films avec elle. Au début j'en produisais quand même systématiquement un par an, et c'était des films qui marchaient énormément. Et ça m'a vraiment troublé, parce que systématiquement, elle gagnait les prix du public, en fait. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, ça se trouve, elle a sans doute raison. Je n'arrivais pas à envisager, en fait, que ces films qui étaient des terrains d'expérimentation puissent aussi, plus tard, avoir une vie parallèle, propre, mais si, en fait... Puis la deuxième rencontre, c'était avec un autre garçon, en fait, qui s'appelle Jean-Gabriel Perriot, qui vient d'obtenir le César du meilleur documentaire cette année pour Retour à Reims, et que j'ai rencontré aussi totalement par hasard, en fait, dans un festival. On s'est bien entendu, il m'a tout de suite proposé un projet, et puis c'est parti. C'est-à-dire que pareil, on faisait un film par an, alors soit du documentaire, d'archives, parce que lui, il est vraiment spécialisé dans l'archive, soit de la fiction, en fait. Donc, j'en ai produit peut-être 6 ou 7, en fait, films.
Donc, tu fais du doc et de la fiction, hein. Les deux,
oui, oui.
Les deux genres t'intéressent. Et donc, d'accord, Jean-Gabriel.
Donc, avec lui et puis avec d'autres, mais c'était... Et puis une chose en amenant une autre, effectivement, j'ai commencé à rencontrer des cinéastes qui avaient déjà fait des longs métrages. Donc c'est là où j'ai commencé à développer des longs métrages. Et puis il y avait ces...
Là, on était il y a combien de temps, tu dirais, les longs, entre la page des cours?
Il y a peut-être, peut-être une quinzaine d'années, en fait.
D'accord.
Où en fait, parallèlement, en fait, je développais des longs de réalisateurs qui avaient fait des cours, avec qui j'avais fait des cours plutôt. Parce qu'en fait, je ne travaillais jamais sur des projets avec des gens avec qui je n'avais pas déjà travaillé, en fait, au moins sur de courts-métrages. Et puis, par-dessus ça, sont venus des réalisateurs, mais complètement par hasard, en fait, qui avaient déjà Par exemple, Claude Duty, qui avait fait Fille perdue, cheveux gras.
Et qui a eu tous les prix à Clermont-Ferrand, Claude
voilà,
Duty, des courts-métrages.
Le pape du court-métrage, en fait. Et, il me connaissait forcément, puisqu'en fait, il est tous les ans, il est à Clermont-Ferrand pour faire les entretiens avec les jeunes réalisateurs. Et puis, et fatalement, comme moi, j'en avais quand même une tripotée qui allait à Clermont, en fait, il me connaissait, donc il m'a proposé un projet qu'on a fait ensemble.
Il faut dire aux auditeurs quand même, parce que Nicolas est assez humble, mais il y a quelques sociétés, dont celle de Nicolas, qui sont particulièrement connues pour ce côté très prolifique dans autant d'œuvres. Je pense à toi ou à Carré Prod, qui ont à un moment eu à l'avoir une activité en long, mais qui ont fait aussi toute un laboratoire, comme tu dis, sur le court-métrage. J'ai l'impression, ça se fait encore ça, ou tu penses que c'était une certaine
époque?
Je sais
pas, peut-être. Non, en fait, j'ai l'impression que c'est plus lent, ou peut-être plus compliqué, ou
J'ai l'impression que c'est assez générationnel, parce que même Fidélité, il y avait un côté comme
ouais.
toi, où ils ont fait
Fidélité,
beaucoup de cours.
Ils ont fait beaucoup de cours aussi.
Il y en a pas mal des prods, je trouve, qui ont pu ouais. avoir comme toi ce côté laboratoire sur le cours. Et toi, t'as aimé ce genre, finalement? Tu
ouais,
dis c'était
ouais,
un
mais moi,
exercice.
J'étais assez inspiré par... je vous dis, par ces producteurs des années 60, par Beauregard qui avait fait aussi une centaine de cours, par
on pense au Miston
Donna.
De François Truffaut,
ouais, voilà.
Les Mistons.
Il y en a eu beaucoup et ça me semblait un parcours logique. En fait, je voyais pas comment, alors qu'aujourd'hui, sans doute c'est ça aussi, mais comment de but en blanc, en fait, aller dans la production de long métrage comme ça, sans passer par... par cette relation avec le... Oui, et puis cette relation qui pour moi est importante avec le réalisateur, en fait.
Un bon cours pour toi, une petite question de curiosité, dans tout, parce que tu as dû en voir un paquet et tu en as même produit. Qu'est-ce qui, toi, t'a toujours le plus touché, finalement, côté court-métrage?
Je pense que c'est... je sais pas, je pense que c'est quand...
C'est le regard, j'ai l'impression que tu es beaucoup sur l'artistique,
oui, mais c'est...
quand même.
Oui, mais c'est surtout quand... Je pense que quand le réalisateur me propose de faire le suivant, en fait.
D'accord.
Je dis, tiens, en fait, c'était bien. Enfin, voilà, mais,
oui, quand l'expérience a été positive et qu'on a envie
voilà,
de rempiler
on a envie
derrière.
De rempiler, mais j'ai assez peu de recul sur ce que j'ai fait. Voilà. Enfin,
tu marches pas mal à la confiance. Ce qui est intéressant dans
oui,
ce que tu dis,
oui.
c'est que j'ai l'impression que c'est plus finalement, tu suis les réals, mais c'est le scénar, d'accord. Mais en vrai, c'est avant tout suivre des réalisateurs et des réalisatrices.
Oui, parce que je sais que, comme Blondine Lenoir m'a dit, tiens, je vais faire un film. J'ai trouvé un bouquin, c'était des lettres que des catholiques écrivaient à un abbé dans les années 30 sur leurs problèmes conjugaux. Je me suis dit, mais tu crois qu'on peut faire un cours avec ce truc-là? Ça me paraissait mais bizarre. Et puis, elle a écrit son scénario. Je me suis dit, oh là là, ça va, bon, elle veut le faire, hein, ben, on y va. Donc, on y a été. Donc ce film, c'est Monsieur l'abbé, qui est vraiment une œuvre, en fait, qui est vraiment quelque chose de... hyper abouti, très singulier, hyper intéressant, avec une mise en scène vraiment très bien.
T'as voilà. été surpris, quoi. Au départ, t'étais pas forcément partant.
Oui,
mais...
oui, mais parce que en fait, je me pose assez peu la question de. Je me dis, en fait, un réalisateur, enfin, ceux que je connais, mais je me dis qu'il a certainement plus raison que moi, en fait, sur sa volonté ou sa capacité ou son. Ou sur la légitimité de faire un film. Donc voilà, par exemple, elle m'a dit, ah bah tiens, j'aimerais bien faire un jour, j'aimerais bien faire un plan séquence avec Nanou Garcia. Nanou Garcia, c'est une comédienne, elles se connaissent très bien, c'est une comédienne que j'aime beaucoup. J'ai un plan séquence avec Nanou Garcia. Et en fait, ce film est vraiment, alors pour le coup, c'est un de mes préférés, ça s'appelle Pour de vrai. Et effectivement, c'est un plan séquence avec Nanou Garcia, mais il se passe beaucoup de choses et très surprenantes, en fait, dans ce plan séquence. On a l'impression que, justement, ce n'est pas un plan séquence. Mais voilà, donc c'était un... Ou c'est comme, par exemple, Jean-Gabriel Perriot qui m'a dit un jour, ah ben tiens, j'aimerais bien faire un long sur la fraction Armée Rouge. Alors, voilà, la fraction Armée Rouge, déjà, je me disais, oui, pourquoi pas, en fait, ce terroriste allemand, j'avais un peu de mal, en fait, à me projeter, en fait, mais il avait l'air, voilà, tellement convaincu de ce qu'il pouvait faire, et c'est un film d'archives, effectivement, ça s'appelle Une jeunesse allemande, qui était aussi nominé au César il y a 4-5 ans.
Bah, c'est bien, tu suis vraiment en tout cas tes auteurs, tes réals et tes artistes et tu leur fais confiance. Ça, c'est assez, assez frappant dans ce que tu racontes. Et d'ailleurs, sur l'aspect goût, parce que c'est vrai qu'on sent le côté auteur, toi en tant que spectateur, tu étais un fan de cinéma plus d'auteur ou en vrai tu étais assez éclectique ?
Non, j'étais assez éclectique.
D'accord, donc t'aimais autant du film qui peut être un peu plus grand public, du film plus, plus créatif.
Oui, 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 après on a toujours comment dire, ces marottes, en fait, ces réalisateurs, voilà, dont on tout, va tout voir et tout, mais en fait j'étais assez, comment dire, je pense, ouvert, en
curieux,
fait,
curieux, éclectique.
Sur le cinéma et puis sur ce que peut faire le cinéma, en fait.
D'ailleurs, tu trouves cette distinction entre nous, cinéma d'auteur versus cinéma commercial, c'est un peu old school entre nous.
Je sais
parce
pas,
qu'un bon film, on parlait d'Ozon, il a la capacité d'être à la fois, je trouve, créatif et en même temps de toucher des sujets souvent universels. Donc finalement, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que c'est très français de dire « Ah oui, il y a le cinéma d'auteur d'un côté, et puis il y aurait le grand méchant cinéma ouais. grand public de l'autre. » Je ne sais pas ton regard là-dessus.
Après, par exemple, Blandine Lenoir, c'est du cinéma d'auteur, mais en fait, c'est du cinéma d'auteur grand public, en fait. Parce voilà. que le précédent qu'elle a fait, la Aurore, ça fait plus de 500 000 entrées. Donc, c'est quand même... voilà, enfin, c'était...
Peut-être les deux. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on peut... Le goût et la vision d'un auteur peut rencontrer l'universel. C'est souvent là où il y a les meilleurs films. Donc, je sais pas, on peut dire...
Après, il y a des choses que je ne sais pas produire, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, les comédies ou les films de genre, vraiment... voilà, ça, je sais pas faire. Je sais pas en parler, vraiment, en fait. Voilà.
Donc c'est des films plus scénar que metteur en scène, tu penses ?
Peut-être, ou parce que en fait c'est parce que ça répond aussi à des ça répond un peu à des
recettes ou des codes,
tâches à cocher en fait sur des trucs de scénario. Et moi je crois que c'est pas si bon que ça en fait.
Okay.
Après il faut reconnaître sa limite. Hein.
Donc, et alors sur les longs, donc tu as eu des films quand même marquants. Donc c'est Annie Colère, c'est ça ?
Annie Colère, c'est le dernier qui est sorti au mois de novembre. Voilà. Donc, c'était avec Laure Calamy, avec
India
Air, voilà, avec plein d'acteurs, il y avait une quarantaine d'acteurs. Et c'était sur... pareil, en fait, un jour, elle vient me voir, elle me dit « Tiens, j'aimerais bien faire un film sur le MLAC. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est le MLAC ?» En fait, je ne connaissais pas. Et c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception. C'est un mouvement qui a existé... très peu de temps en fait entre 73 et 74 juste avant l'adoption de la loi Veil et en fait c'était un, comment dire, des groupes en fait des jeunes médecins en fait qui aidaient des femmes à avorter avec une méthode d'avortement qui était à l'époque révolutionnaire, qui était la méthode de Karman, qui était par aspiration. Et en fait, là, c'était complètement illégal, mais c'était toléré parce que la demande en fait, des femmes était énorme à cette époque pour avorter. En même temps, c'était complètement interdit. Mais on laissait faire, en fait, parce que sinon, la demande était tellement importante. Voilà. Et c'est un mouvement...
C'est une histoire vraie, en plus.
Oui, hein. Oui, c'est une histoire vraie. C'est un mouvement qui a justement permis... qui a fait pression en fait sur le gouvernement quand même pour à un moment donné arriver à cette loi.
Combien de temps avant la loi de Veil ?
C'était un peu un an et demi, c'était en 73 et la loi Veil elle a été adoptée début 75.
Donc c'est un beau sujet tel que tu l'énonces, voilà. C'est assez inédit.
C'est un très beau sujet, c'est l'histoire d'une ouvrière en fait qui a deux enfants et qui par accident tombe enceinte et qui ne sait pas du tout comment faire pour avorter. Elle rencontre... le MLAC, en fait, ce mouvement. Et donc, elle se fait avorter. Et puis, par un concours de circonstances, elle va complètement, en fait, s'investir dans ce mouvement. Elle va elle-même avorter d'autres femmes. Et elle va trouver une sorte d'émancipation, en fait, personnelle, en étant par la solidarité qu'elle trouve avec les autres femmes qui sont dans le groupe, dans le mouvement, etc. En fait, quelque chose qui va aussi lui permettre d'évoluer, etc. Donc moi, je ne connaissais pas du tout le MLAC, hein, je l'ai dit, mais...
Et puis... c'est Laure qui a réalisé...
Non, c'est Blandine Lenoir.
Blandine, hein. C'est toujours... Voilà. Ah oui, Blandine dont tu as parlé tout à l'heure.
Mais c'est avec Laure Calamy. Donc c'était... Et en fait, je me suis rendu compte aussi, mais un peu par inadvertance, que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était un peu les sujets politiques. Par exemple... une jeunesse allemande, c'est éminemment politique, c'est un regard en fait vers le passé, mais qui est tournée sur notre avenir. Annie Colère, c'est pareil. Et en fait, j'aime, c'est des sujets
de société.
C'est des
sujets de société.
Oui, où, en fait, où quand même, le politique en fait, tient quelque chose d'important. Donc ça, c'est, je me suis rendu compte au fur et à mesure en le faisant, mais c'était, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait,
c'est un trait commun, un peu des œuvres que tu as aimé produire. Et sur Annie Colère, alors pour rentrer un peu plus dans les coulisses de la production, parce que pour les auditeurs qui connaissent moins, donc quand ça se passe et qu'elle te parle de sujet, ensuite elle est assez libre sur l'écriture, elle te livre une première version, ou tu t'aimes bien suivre pas à pas avec
le séquencier ?
Ah non,
non, alors ça, j'ai suivi en fait, beaucoup l'écriture du scénario. Elle a écrit, elle a co-écrit avec une réalisatrice qui est aussi scénariste qui s'appelle Axel Repère. Et donc ça a été, mais le scénario s'est écrit assez vite. En même temps, ça met à peu près, mais c'était pendant le confinement, donc ça a mis à peu près un an et demi en fait. Et le financement s'est fait aussi assez rapidement. On ne sait pas pourquoi.
Il y a eu la bonne mayonnaise.
Voilà, il y a eu le bon mojo. Là.
Alignement des planètes. Tu as eu quel distributeur qui est rentré?
C'était
sur...
Diafana, qui distribuait.
Michel Saint-Jean.
Voilà, tout à fait. Et en fait, c'était le... Je sais pas, c'était le bon moment, c'était le bon sujet, c'était la bonne personne, c'était la bonne actrice aussi, parce que...
Laure, elle a dit oui tout de suite.
Elle a dit oui tout de suite, parce qu'elle se connaît très
bien. Bon, dans les interviews, on dit toujours, ils ont dit oui tout de suite, je fais la blague, mais...
C'est... Non, mais en fait, j'avais fait un premier long de Blondine Lenoir qui s'appelait Zouzou, qui est une comédie vraiment hilarante sur comment on parle de sexe en famille. Et en fait, c'est un des premiers rôles de Laure, en fait.
Avant même 10%, alors.
Voilà. Ah, ouais, oui, c'était avant 10%, oui. Ouais.
Et elle est géniale, cette actrice, elle est super.
Et dans Zouzou, elle est géniale aussi, elle est incroyable. Mais du coup, ça aussi, c'est un film assez politique, en fait, sur l'éducation sexuelle, en fait. Alors, dit comme ça, ça paraît pas très drôle, mais le film est vraiment très, très drôle et très réussi, en fait, pour le coup.
Bah, félicitations.
Et très libre.
Et Annie Colère, il a bien fonctionné, non ? Il y a eu combien d'entrées sur Annie
Colère ? Il a fait plus de 200 000 entrées, en fait. Voilà.
C'est déjà un beau score, quand même.
C'est déjà pas mal.
Surtout dans la période Covid, qui n'a pas été évidente.
Non, non.
Et toute cette phase de financement, t'aimes bien aussi, en plus de... Parce que là, on te sent très proche des réals. Réalisateur ou réalisatrice, mais cette phase du bâton de pèlerin du prod qui doit embarquer les gens, comment tu vis cette phase qui est quand même pas si simple?
Non, mais c'est pas la phase qui m'intéresse le plus, en fait. C'est... Après, moi, j'étais beaucoup habitué, mais mal habitué à faire mes films, en fait, avec assez peu d'argent, finalement. Là, en fait, c'était la première fois où j'avais vraiment un budget important, en fait, pour faire le film. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, la phase qui m'intéresse, où je suis assez présent, c'est sur le scénario, justement. Mais c'est aussi, j'aime beaucoup le montage, en fait. Et donc là, je suis plutôt très, très présent au montage. Par contre, toute la partie financement, etc., c'est pas très drôle, c'est pas, et puis c'est beaucoup de non et assez peu de oui.
Donc, faut être très tenace dans cette phase.
Ouais.
C'est la partie dure du métier de prod, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah oui, c'est la partie la plus chiante, en fait, finalement, qui est pas non plus hyper exaltante. Après, il y a des gens qui adorent ça, des producteurs qui disent allez, on y va, je vais tous les avoir et tout. Moi,
il y a toujours un saut dans l'inconnu quelque part, parce que tu arrives avec ton projet, comme tu dis, tu sais pas si quelle porte va s'ouvrir. Il y a un côté, tu penses, de bien cerner quels sont les partenaires, ça c'est clé. Tu penses l'alchimie entre industrie.
Oui. Après, comme elle avait fait un gros carton avec son film précédent, effectivement, je pense que le distributeur, il a suivi tout de suite, qu'en fait, voilà.
Okay.
Elle aurait fait un bide, je sais pas. Mais
ok, bah intéressant que tu nous racontes toute cette expérience. Alors l'Entertainment Lab, on a parlé du Sénat, on a parlé des réalisateurs. Est-ce que tu peux... Alors oui, tu as parlé de François Ozon, c'est drôle, donc que tu as découvert au début. Et que tu as pensé quoi tout
ça? Ah, j'ai pas découvert, c'est lui qui m'a découvert.
Vous êtes découvert. En tout cas, il y a eu ce début avec lui. Qu'est-ce qui t'avait bluffé au début? Parce que tu as dû être vachement marqué par tout son parcours. Comment tu expliques un tel réal?
Ce qui m'avait plutôt... En fait, je me suis rendu compte que les réalisateurs avec qui ça fonctionnait, en fait, avec qui j'allais assez loin, etc., où je produisais beaucoup, c'est des gens, parce qu'on rencontre toutes sortes de réalisateurs, mais c'est des gens qui, Jean-Gabriel Perriot, Blandine Lenoir, François Ozon, c'est des gens qui travaillent non-stop tout le temps.
Ouais, ils bossent.
Et en fait, moi, j'aime beaucoup ça, en fait. C'est des gens qui cherchent, qui travaillent, qui réfléchissent.
Je sais que François Ozon, il raconte qu'il reste toujours dans son lit. J'avais lu, il disait, ah, j'adore écrire toute la journée. Dans mon,
oui, oui, on sent pour faire un film par an, il faut qu'il travaille, en fait.
Ah oui, c'est vrai que c'est l'un des rares qui fait un par an, comme Woody Allen. Ouais. On n'a pas beaucoup qui font un par an.
Non, assez peu. Mais moi, ce qui m'a toujours impressionné, en fait, c'est justement, c'est ça, c'est des gens qui... Et en fait, on voit très vite la différence entre... Il y a des réalisateurs avec qui je n'ai pas continué de travailler parce que... Effectivement, j'avais l'impression aussi que eux travaillaient pas forcément en fait. Puis ils ont abandonné ou voilà.
Faut être bosseur quoi. En réalité, ouais, ouais, ils sont fabriqués. C'est ce que disait Jacques Brel. Ça, j'avais bien aimé. Il disait oui, il y a pas des artistes, il y a des gens qui fabriquent, qui travaillent
ouais.
Et un peu besogneux, mais finalement il y a un côté artisan où il faut pas fabriquer quelque part.
Ouais, ouais, ouais. Mais je voilà. Et c'est par exemple Jacques Brel Perriot. Alors lui, il m'épuise tellement il travaille. Voilà. Donc bon, à chaque fois que je le vois, je suis déjà fatigué tellement il a travaillé. Et voilà, mais c'est assez exaltant en fait parce que.
Par contre, on sent que tu es un vrai repéreur de talent. T'as beaucoup de festivals, de projo, il faut rencontrer.
J'en ai fait en fait, voilà, mais il y a après il y a c'était beaucoup parce qu'un tel connaissait un tel, donc on m'a contacté, mais j'ai pas. Ça m'est arrivé très rarement de. Ça m'est même jamais arrivé, je crois, d'aller dans un festival, de voir un cours. Je dis, ah bah tiens, ce cours, il est super. J'ai envie de rencontrer les réalisateurs. Ça m'est jamais arrivé.
Oui, c'est plutôt un contexte de rencontre spontanée ouais. Et la spontanéité d'une.
Tout d'un... comme un scénario qu'on m'envoie par la poste ou enfin, maintenant par mail. En fait, j'ai jamais produit. En fait, oui, voilà, c'est jamais un, comment dire, venu
produit.
Comme ça.
Donc il y a toujours l'humain qui, ouais. C'est, qui est clé. Alors, un petit regard de ta part sur toute l'évolution récente. Bon, malheureusement, il y a eu ce malheureusement ce Covid qui a un peu changé la face du monde. Le cinéma, il est un peu différent. Les gens regardent beaucoup de séries. Le cinéma, il doit être encore plus convaincant pour embarquer les gens et un petit peu spectaculaire. Comment tu vois toute cette évolution des dernières années? C'est un peu troublant pour quand on a été un gros passionné de cinéma. Comment tu vois le truc, toi?
Alors, moi, je relativise beaucoup. Parce qu'en fait, là, je me suis lancé dans un truc pas possible. En même temps, je l'ai fait, donc voilà. En fait, est venu un jour, justement, en m'interrogeant sur pourquoi je produisais, etc. Je me suis dit, bah, en fait, pour savoir pourquoi, il faut un peu revenir un peu en arrière. Et je me suis lancé dans une exploration, en fait, de la production des films des années 80, où j'ai écrit, en fait, un livre qui s'appelle Golden 90s, un livre en fait qui fait 800 pages sur toute la production des films, enfin comment on produisait des films entre 80 et 89.
Et, en France ou à l'international?
En France, d'accord. En France, c'est le cinéma français. Et en fait, il y a eu 10 000 fois plus de rebondissements et de crises dans ces années-là que maintenant en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît maintenant, en fait, c'est des aussi.
C'est déjà arrivé.
C'est déjà arrivé, en fait.
Il y avait quoi de hard entre 80 et 89
dans l'apparition de la vidéo, en fait. Ah, déjà, oui, non, mais ça a été un
bouleversement. C'était pas Netflix à l'époque,
non,
mais c'était la vidéo.
Ça a été un bouleversement majeur dans la consommation d'images à domicile. La création de Canal+, en fait, ça a été aussi révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on était dans un monopole de la télévision totale. Et on est arrivé à la fin des années 80. En fait, à une libéralisation extrême avec la naissance des télévisions privées, avec la privatisation de TF1, en fait. Et tout ça, ça a bouleversé...
C'était un Big Bang déjà à l'époque.
Ouais,
quoi.
Ça a bouleversé l'écosystème du cinéma, mais peut-être même beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que... Et en plus, avec à la clé, parce que là, c'est... Enfin, hors période de confinement, c'est une année à part, mais avec à la clé, dans ces années-là, en fait... une chute, mais abyssale, des entrées en salle. C'est-à-dire que en 89, on était la fréquentation avait baissé à 120 millions d'entrées. Aujourd'hui, en 2019, avant le confinement, on était à 213. Donc on a remonté quand même. Mais au début des années 80, on était aux environs de 200 millions d'entrées. Voilà. Là, en 2019, on était à 213. Bon, après, bon, ça a baissé, mais là, ça remonte. Mais en 89, ça a été une année noire, 88-89, ça a été, on pensait vraiment que le cinéma français allait disparaître en fait. C'est-à-dire que c'était, les gens ne se posaient plus la question. C'est-à-dire,
les gens oublient en fait en t'écoutant.
La part du cinéma américain, ça faisait presque, pas 60%, mais quand même pas loin. le cinéma français, il y avait plus grand-chose, en fait.
Claude Berry, il était là encore.
Oui, alors,
il y avait des grands aussi, oui. Les auteurs populaires.
Tout à fait. Mais en même temps, autour de ça, il ne restait plus grand-chose, en fait. Et des crises, on en a connues. Et des très importantes. Et en fait, le fait de faire ce retour en arrière, ça permet aussi de... Non seulement un peu de relativiser, mais aussi de tracer aussi une prospective. C'est-à-dire que, le cinéma, il sera toujours un peu plus fort, en fait, que la série télé ou que Netflix. Donc,
mais il est toujours challengé. On le voit en ce moment, il y a beaucoup de films qui sortent sur le sujet. Entre Babylone, le film Empire of Light de Sam Mendes, Fableman de Spielberg. On a l'impression que toute cette génération, il y a cette espèce de hantise que ça disparaisse. Un peu comme si le cinéma, il vient, il revient, il peut disparaître. Et quelque part, mais c'est la magie en même temps. Donc les gens, ils ne veulent pas le perdre. Mais enfin, voilà, il y a un côté va-et-vient comme ça.
Mais là, on est dans quelque chose qui croît, en fait. Voilà. Alors, après, le confinement, on est descendu à 80 millions d'entrées. Donc c'était
Ah oui, 80
terrible.
Millions, ouais. Je n'avais pas le chiffrage.
Oui, ça a été vraiment...
On n'est jamais descendu aussi bas en 80.
Non, mais les salles ont été fermées pendant je ne sais pas combien de temps, donc c'était un peu normal.
Traumatisme.
Mais là, ça remonte. Donc,
et est-ce que ça change? Tu ne crois pas, comme moi, que ça change aussi notre rapport au cinéma? Parce que, comme tu dis, on voit, il y a beaucoup de gens qui adorent le cinéma et il y a toujours cet amour. Mais le fait que les séries ont quand même placé parfois la barre haut, maintenant... et que les gens soient quand même beaucoup chez eux, on dit souvent maintenant au cinéma, il faut un peu un événement ou ramener quelque chose d'un peu plus fort. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi?
Oui, non, parce que par exemple, quand on voit L'Innocent de
Garel,
qui est un film d'auteur, une comédie plutôt sympathique, bien faite, qui fait 600 000 entrées.
Ouais, c'est un beau score. Hein.
C'est pas un film à 15... C'est pas
Top Gun, quoi.
Non, mais c'est même pas Astérix, voilà. Mm. Donc, en fait, non, je pense qu'il y a...
Il y a encore la place pour des pépites, le film de Sage Homme, que je trouvais bien, de tes confrères de Carré, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est... Il y a effectivement, le cinéma français, il a encore des petites pépites, je trouve, intéressantes.
Oui, mais il y en a. Après, je pense que le bouleversement, il est assez fort sur... tout le monde est perdu. C'est-à-dire que, on va avoir une chaîne de télé ou n'importe quel financeur. En fait, ils ne savent plus ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc,
déjà su.
Voilà. Et je pense que là, en fait, il y a une sorte de comment dire... une sorte de flou qui est peut-être favorable justement au
retour de la créativité.
Et que en fait les séries, oui, mais
quand tu regardes beaucoup les séries ou
pas tellement? Je regarde, mais pas tant que ça. Et en fait les séries, je pense qu'il y en a au moins
beaucoup. 30...
Non, mais il y a, je sais plus quel est le taux, mais en fait les gens qui regardent un épisode ou deux, mais pas les 10,
ça décroche.
En fait. Voilà.
C'est ce que disait Thierry Frémaux, donc patron du Festival de Cannes. Il disait oui, souvent les séries, elles pourraient le raconter en un long métrage. En fait.
Aussi, mais
c'est
vrai
un peu
que,
violent, mais c'est.
En fait, c'est la nouveauté qui amène la nouveauté. C'est-à-dire que une nouvelle série remplace très vite, au bout de deux jours ou trois jours, l'ancienne, et sans qu'on ait même eu le temps de regarder en fait l'intégralité des épisodes, si c'est 10 ou 12 ou 15. Donc je sais pas. Après, il y a je pense que c'est très bien ça, parce qu'en fait, ça permet aussi, je pense, à celui qui les regarde ou celle qui les regarde, de relativiser, c'est-à-dire de donner plus d'importance à l'image qu'il y a au cinéma que à la consommation, entre guillemets, de ce qu'on donne au cinéma et à la consommation. C'est-à-dire que c'est vraiment venu entre le fast-food, un peu le restaurant. Tiens,
moi, je suis d'accord avec toi.
On va se faire un bon repas et on ne sera pas déçu.
Après, là où je te rejoins, c'est que maintenant, je ne sais pas si tu l'as, quand tu retournes au cinéma, je trouve qu'on apprécie le rythme du cinéma parce que ça prend un peu son temps, c'est plus artistique. Et comme on est habitué maintenant au format télévisuel, on se dit « Ah, c'est quand même, ça fait plaisir de voir des beaux plans, de voir au-delà de l'expérience collective aussi. » Mais je trouve que quand même le cinéma, je suis comme toi un passionné, mais je trouve que ça reste des rythmes de prendre son temps et de toucher le spectateur. Alors qu'aujourd'hui, des séries ou le problème de montage qui peuvent être très dynamiques, on n'a pas tout le temps ce truc artistique, quoi. C'est heureusement qu'il reste ça, quoi.
Par exemple, le film de Spielberg, Fableman, ça dure 3 heures. En fait, on les voit pas tellement passer, en fait.
T'as beaucoup aimé le film Fableman, ouais.
Oui, ouais, il y a quelque chose que j'ai... je trouve qu'il y a...
Très intime, quoi.
Ouais, c'est très touchant, c'est assez beau, en fait. Il y a des moments assez gracieux et tout, c'est... Voilà.
Il a fait du François Ozon. Ce qui est fou avec Spielberg, c'est qu'on se dit que c'est quand même le cinéaste le plus grand public. Et plus il avance, plus il va vers des choses intimes qui se dévoilent, là. Parce que moi, j'ai trouvé que de se dévoiler de tout le début de sa vie, avant même que, finalement, il démarre sa carrière... J'ai trouvé ça assez fort. Bon, malheureusement, c'est pas celui qui a fait le plus d'entrées, mais bon.
Non.
Mais bon, il s'est fait plaisir. Il a le droit de se faire plaisir à ce stade. Donc toi, tu produirais potentiellement avec des plateformes ou en vrai, tu restes avant tout distrib.
Non, parce qu'en fait, c'est une autre méthode. J'ai pas appris celle-là. Donc.
Alors moi, ça m'intéresse Golden IT's. On arrive dans la dernière partie du podcast parce que ce que je trouve intéressant, en plus, tu as commencé avec Anatole Domand de mémoire, c'était Argos Film. Hein.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, j'avais une discussion intéressante avec Alain Corneau qui m'avait beaucoup marqué, qui disait que toute cette génération de prod. Il y avait peut-être plus d'audace, où ils allaient un peu plus au courage artistique, créatif, et ils disaient, oui, là, ça change un peu. Tu trouves aussi qu'il y avait plus d'audace dans la prod à l'époque, alors, et des financiers peut-être aussi?
Non, alors justement, comme ce livre, il est centré sur la production, mais pas simplement, mais vraiment sur la production. J'ai rencontré, en fait, toute une génération perdue de producteurs, c'est-à-dire qui ne sont plus en âge de produire, mais qu'on produit à cette époque, et notamment... une productrice qui est absolument incroyable qui s'appelle Albina de Boisrouvray et qui a produit en fait des films de Corneau, les premiers films de Corneau en fait. Voilà. Et elle, c'était... c'était une... Les femmes étaient assez rares en fait dans la production, mais elle a produit... elle a produit aussi son dernier film qu'elle a produit, c'était Forsagan justement de Corneau. Et voilà, et ça m'a permis de rencontrer une génération en fait que je connaissais pas vraiment de producteurs.
Ils sont bien, je trouve. Ils sont souvent, ils ont été très à l'écoute. Moi, ils m'ont marqué. Je pense notamment à Alain Corneau des réalisateurs, je trouve, de cette époque. Je trouve qu'ils ont un côté très accessible, très humble. Je sais pas comment dire. Mais ils sont.
Moi, la rencontre qui m'a le plus impressionné, parce que en fait, c'est 10 chapitres, parce que c'est 10 années, donc 80, 81, 82. Et j'ai voulu, par chapitre, aussi rencontrer un producteur de cette année-là. Et celle qui m'a le plus bluffé, parce que j'ai trouvé incroyable, c'est une dame qui s'appelle Marie Lorrer. Alors, tout le monde l'a oublié. Mais elle a produit notamment Possession de Zulawski avec Adjani. Et il fallait, à cette époque, un courage mais monumental. Et quand on la voit, c'était pareil, c'était une dame très belle, très distinguée, etc. Et on l'imagine mal dans le métro de Berlin avec Adjani qui vomit. Et qui, voilà. Et en même temps, c'était des films extrêmement durs à produire. Mais elle le faisait. Et puis elle a produit aussi un film, son plus gros succès, parce que c'était vraiment un énorme succès, c'était L'Effronté. De Claude Miller
avec Charlotte Gainsbourg. Voilà. C'est un bon film, ça.
Et en fait, je ne la connaissais pas du tout, du tout, du tout. Mais quand j'ai vu... parce que je revoyais pas mal de films de cette époque-là. Et quand j'ai vu Possession... D'ailleurs, je me demandais, je me suis jamais posé la question de qui avait produit ça. Je me dis, oui, ça va être un type. Enfin, bon. Et en fait, ça s'ouvre. Premier plan, c'est Marie Lorrer présente. Je me dis, mais qui est cette femme, en fait? Et donc, j'ai été voir. Donc, il y a une dizaine de producteurs comme ça que je ne connaissais pas du tout. J'ai rencontré le producteur aussi, parce que lui, ça, c'était aussi un tournage un peu mythique. Le producteur de Loulou, le film de Piala, avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Pareil aussi. Enfin, voilà, mais c'était complètement différent d'aujourd'hui. Mais en même temps, c'est très instructif, en fait. Je pense que la croyance, c'est ça en fait qui fait que le cinéma.
Peut-être un nouveau mouvement maintenant de nouveaux producteurs.
Je ne sais pas, mais les producteurs d'aujourd'hui, non, je crois pas qu'ils connaissent Anatole Domand. Mais peut-être que ce livre.
Je connais Argos Film, bien sûr.
Oui. Et peut-être que les voilà, peut-être que ça va leur.
Les ouvrir les chakras, comme on dit. Et côté, petite question sur Claude Berry, tu as eu la chance de le rencontrer
ou
pas?
Pas du tout. Il est mort quand j'ai fait mon livre.
Tu
ne
l'as pas rencontré avant. Mais pas avant, tu n'as pas eu la chance de le rencontrer avant.
Non.
Ça marche. Alors, toute dernière, la question que je pose traditionnellement aux invités, c'est tes goûts. Alors, ciné, tu n'es pas obligé de dire, parce que tu en as beaucoup parlé, mais si tu as un ou deux films qui t'ont vraiment marqué en tant que spectateur, et musique ou BD ou un livre, enfin vraiment des créations qui t'accompagnent, soit récentes, soit de tout temps.
Ah! Non, je peux pas dire au dépoté comme ça. Mais non, non, il y a deux, trois cinéastes, en fait, que oui, où je peux regarder les films indéfiniment. Il y a les classiques comme Douglas Sirk, par exemple. Mm-hmm. Ça, je peux regarder mille fois Le Mirage de la vie, ou voilà, des films comme mm-hmm. ça.
C'est François Ozon qui adore Douglas Sirk.
Ah oui, aussi, certainement. De mémoire. Il y a aussi un cinéaste plus récent, Almodovar. C'est quelqu'un qui arrive à parler de l'intime, mais à l'offrir comme ça, d'une manière très ouverte et très accessible. Et moi, je trouve que ces films sont de mieux en mieux. Enfin, l'avant-dernier, là, Douleur et gloire, moi, j'ai trouvé que ça serait beau. C'est comme Babylone ou comme de Fadelman, c'est-à-dire qu'il revient, il retourne dans son enfance aussi pour revenir au cinéma, en fait, pour d'où ça vient, en fait. Voilà, non, il y en a plein. Mais
Dolan, Xavier Dolan, il a
Xavier Dolan, oui.
Il est marquant.
Oui, oui.
Parce qu'il adore Almodovar.
Ah oui.
Il le cite souvent. Super. Et alors, toute dernière question, tu en as un peu parlé en filigrane du podcast, c'est le conseil que tu donnerais à un jeune producteur aujourd'hui ou une jeune productrice qui veut se lancer, à l'aune de finalement tout ton parcours, ce que tu dirais comme petite leçon ou mini-conseil, je dirais.
C'est hyper dur parce que moi, on m'a jamais donné de conseil, en fait.
Bon.
Donc, c'est un peu du do it yourself que j'ai fait. Donc, et en même temps, je sais pas. Non, franchement, là,
Je vais t'aider. Moi, en écoutant tout ton parcours, ce qui est assez frappant, c'est que je trouvais que tu as suivi beaucoup ton intuition et des rencontres. Et finalement, tu es allé beaucoup à l'instinct, j'ai l'impression, sur les gens aussi.
Oui, alors, conseil, c'est la intuition et la curiosité. En fait, moi, je suis très curieux. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que je suis assez éclectique dans ce que je produis, dans les gens que je connais. Voilà, je suis vraiment très curieux. Voilà.
Merci beaucoup Nicolas, c'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast.
C'était un plaisir pour moi aussi.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.